Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue, vous êtes bien sur Radio Territoria. Nous sommes en direct à Montpellier pour vous faire suivre le 84e congrès HLM. Dans cette émission, on va s'intéresser à la requalification du logement social comme levier des projets de rénovations urbaines. Avec un focus notamment sur la publication par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine d'un livret illustrant la diversité des solutions qu'offre l'économie sociale et solidaire dans les quartiers concernés par du renouvellement urbain. Et pour évoquer le sujet, eh bien des invités ici se sont joints à moi, je suis ravi de les recevoir et je vous les présente tout de suite. Isabelle Buron, bonjour.
Bonjour.
Directrice adjointe Habitat et Rénovation Urbaine, agglomération de Pau, bienvenue à vous. Anne Jauvert, bonjour.
Bonjour.
Responsable du département qualité urbaine et renouvellement urbain, USH, bienvenue. Nicolas Decouvelaire, bonjour.
Bonjour.
N'hésitez pas, si je me suis trompé sur le nom de famille, la prononciation, non, ça allait ?
Decouvelaire.
Oui. Ok, très bien, vous faites bien. Directeur du patrimoine et du développement, Archipel Habitat, bienvenue. Et puis Anaïs Juste, bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission Habitat à l'ANRU. La réhabilitation du logement social est considérée, on va le dire, comme un élément crucial pour améliorer le cadre de vie des habitants dans les quartiers prioritaires. Anaïs, l'ANRU vient de publier un livret qui inaugure d'ailleurs une toute nouvelle collection baptisée Regard sûr et qui valorise, dans le cadre de ses programmes, le renouvellement urbain, carnet de requalification du logement social comme levier des projets en renouvellement urbain. En quoi la réhabilitation constitue-t-elle finalement un levier majeur d'intervention pour améliorer le parc de logements dans les quartiers en rénovation urbaine ?
Alors, il faut savoir que dans les quartiers prioritaires, il y a en moyenne 70% de logements sociaux contre 20% au niveau national. Ce sont parfois des patrimoines encore vétustes qui sont peu adaptés aux usages d'aujourd'hui ou mal intégrés à leur environnement. Donc, on comprend donc à quel point la réhabilitation constitue un levier majeur d'intervention pour améliorer le parc de logements et l'adapter aux enjeux de demain. D'autant que les habitants des quartiers populaires sont en première ligne des effets du changement climatique.
Alors comment a évolué clairement l'investissement par le logement entre le PNRU et le NPNRU ?
Alors l'ANRU s'est emparé du sujet depuis la mise en œuvre du premier programme avec le financement de plus de 400 000 réhabilitations. Dans le NPNRU, ce sont 147 000 logements qui sont ou vont être réhabilités. Des réhabilitations qui sont de plus en plus ambitieuses. Nous sommes passés d'un coût moyen par logement dans le premier programme de 17 000 euros à 47 000 euros dans le NPNRU, dont certaines opérations dépassent les 100 000 euros par logement. Cette hausse des coûts, elle est en partie due aux nouvelles exigences de la réglementation thermique, sans parler de l'explosion plus récente des coûts de matériaux ou de la hausse des taux d'intérêt, qui a entraîné une montée de qualité des projets de réhabilitation. On ne fait plus de simples ravalements de façades. Pour autant, l'intervention sur le thermique ne peut repositionner à elle seule un produit. Il faut également penser confort de l'intérieur des logements, accessibilité, interface des bâtiments avec l'espace public ou encore rééquilibrage de l'occupation sociale.
Bon, et clairement, entre nous, comme ça, c'est quoi les objectifs de cette publication ?
Alors, la phase de mise en œuvre opérationnelle du deuxième programme étant bien lancée, c'était pour nous le moment de nous interroger sur ce qu'est une réhabilitation de qualité et réussie. D'ailleurs, on parle davantage des réhabilitations que de la réhabilitation et de se projeter vers l'avenir. La réhabilitation, c'est un élément structurant de la recomposition urbaine et de la mixité sociale. Il est donc fort probable qu'elle sera au cœur du sujet s'il devait y avoir un troisième programme.
Alors ce carnet, c'est le fruit d'un vrai travail collaboratif et interacteur qui aura duré plus d'un an, c'est ça ? Quelle a été la méthode pour le réaliser ?
Alors c'est un vrai travail collaboratif et interacteur qui a duré plus d'un an. Donc une trentaine d'entretiens ont été menés auprès d'experts du logement social, de la réhabilitation et des projets de renouvellement urbain, que ce soit des collectivités, des bailleurs, des architectes, des urbanistes et des partenaires institutionnels tels que l'USH qui nous a accompagnés tout au long de cette étude, mais également la DHUP, la Banque des Territoires, le PUCA, le CNOA ou encore l'EPO. Ainsi que des visites de terrain, donc 20 sites, dans lesquels ont été menées des réhabilitations qu'on pourrait qualifier d'exemplaires. Donc ce travail, il a permis de faire émerger une vingtaine de grands enseignements que l'on a regroupés en 4 axes de travail.
Ok, bah on en parle justement de ces axes, quels sont-ils ?
Alors tout d'abord, la réhabilitation, elle doit contribuer au bon fonctionnement social et urbain du quartier et servir les ambitions du projet, que ce soit l'amélioration du cadre de vie, le changement d'image, la mixité sociale. Pour ce faire, l'ampleur et la nature des réhabilitations doivent être considérées dès la formalisation du projet urbain.
Le deuxième point ?
Le besoin d'une ingénierie opérationnelle et sociale qui ait une véritable expertise sur les opérations de réhabilitation pour établir des arbitrages éclairés. Par exemple, le choix entre réhabilitation en milieu occupé ou non, qui aura un impact sur les produits de sortie, mais également sur la qualité de vie des locataires et des habitants.
Le troisième axe ?
La nécessité de répondre aux enjeux de sûreté et de la gestion. La sécurité, c'est vraiment ce qu'attendent les habitants. Un projet urbain de qualité, il ne pourra pas perdurer si le problème de sécurité et de gestion n'est pas réglé.
Et enfin, le dernier axe.
Il s'agira de répondre aux enjeux environnementaux pour améliorer la qualité de vie des habitants. La réglementation thermique, elle est certes indispensable, mais il est important de penser aussi le confort d'été à l'heure où l'on parle de plus en plus de bouilloires thermiques. Bien entendu, tout cela ne peut être rendu possible que par l'activation de trois leviers majeurs. La consolidation du travail partenarial, une définition collective des ambitions du projet et des financements à la hauteur des enjeux.
Alors, Anne Jauvert, je rappelle que vous êtes responsable département qualité urbaine et renouvellement urbain, Union sociale pour l'habitat. Première question, quelles sont finalement les principales contraintes auxquelles les bailleurs font face actuellement dans un contexte de réhabilitation de logements sociaux ?
Alors, juste en préalable, je souhaitais dire que l'USH était très satisfaite que l'ANRU se soit emparée en fait de ce sujet sur la réhabilitation. C'est un sujet chez les bailleurs qui est présent depuis quasiment toujours, hein, puisqu'on est des gestionnaires à très long terme. Mais c'est vrai que les projets de renouvellement urbain ont donné une toute autre teneur en fait à ces programmes de réa, qui ne cessent de s'amplifier en fait, et qui aujourd'hui effectivement se repositionnent différemment dans la façon dont on peut aborder des transformations urbaines. Alors les contraintes, peut-être avant de parler des contraintes, il faut parler des ambitions. C'est vrai que les ambitions, elles ont énormément augmenté. Ce matin en plénière sur le renouvellement urbain, il y a une question qui était posée qui était comment faire face à la hausse des coûts sans sacrifier la qualité des projets. Et je crois que là on est vraiment au cœur de la question qui nous est posée au travers de ces programmes. C'est vrai que l'ambition aujourd'hui, par rapport au premier ANRU, on était finalement sur une requalification du patrimoine classique, hein, on remettait en état des logements, des parties communes. Il y avait déjà eu la résidentialisation qui avait quand même énormément poussé les bailleurs à sortir des bâtiments et à intégrer les espaces extérieurs et donc s'intégrer dans un projet urbain, dans une dimension spatiale d'une toute autre échelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux climatiques, des urgences en termes d'énergie, tous ces projets seront pris une toute autre teneur. Avec donc à la fois cet enjeu de pouvoir répondre au changement climatique, mais aussi de savoir peut-être davantage intervenir sur le patrimoine existant et le regarder autrement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réhabilitation aussi sur du patrimoine remarquable dans le cadre de l'ANRU. Il y a eu énormément de programmes qui ont été financés. Et ça aussi, ça a été une autre façon d'aborder le patrimoine, de s'interroger sur dans quelle mesure on pouvait le conserver et surtout lui redonner un second souffle. Et aujourd'hui, je dirais, compte tenu aussi des enjeux carbone, effectivement, de lui redonner un second souffle, mais à très long terme. Donc on voit bien qu'on est l'ambition n'est plus du tout la même. Les coûts, comme le disait Anaïs, ont énormément augmenté. Aujourd'hui, on peut atteindre facilement des réhabilitations qui se situent autour de 80 000 euros, 120 à 150 000 euros quand on est sur des restructurations. Et quand on intervient sur du patrimoine ancien, là, on frise les 200 000 euros. Donc on voit bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. Alors la contrainte, c'est la contrainte financière, forcément. Il y a eu la hausse du coût des matériaux, la hausse des taux et la hausse donc du coût des opérations. Alors c'est vrai que compte tenu la hausse des taux, on pourrait se dire on peut étaler le programme, hein, pour absorber la hausse des taux il faudrait allonger la durée de ces programmes, ça n'est absolument pas possible, il y a des enjeux de contractualisation pour ces opérations auprès de l'ANRU, mais il y a aussi des engagements qui ont été pris auprès des collectivités locales ou auprès des habitants. Donc la solution, on ne peut pas effectivement la trouver sur un allongement. Donc il y a d'autres dispositifs aujourd'hui qui commencent à émerger et qui vont permettre d'intervenir sur d'autres leviers qu'on pourra effectivement évoquer peut-être plus tard.
Peut-être plus tard. Vous pouvez développer les spécificités des réhabilitations dans les projets de renouvellement urbain, notamment en termes d'interface avec le projet urbain et de rééquilibrage de l'occupation sociale.
Alors oui, par rapport vraiment aux réhabilitations dans les projets de renouvellement urbain, là aussi je dirais qu'il y a une espèce de graduation qui s'est opérée. C'est vrai que l'enjeu principal et l'enjeu qui est toujours présent, c'est l'amélioration des conditions de vie des habitants. C'est vrai que les réhabilitations dans les programmes en rue ont quand même un enjeu de changement d'image qui était présent dans le premier en rue, qui est toujours présent aujourd'hui, parce que ce changement d'image derrière aujourd'hui, il peut aussi renouveler une attractivité du site. Donc bien souvent, il y a des stratégies en fait. Les réhabilitations sont dans une espèce de processus qui permet finalement d'enclencher à terme une diversification sur le site. Par diversification, on entend l'accueil, y compris de programmes d'accession, et donc de nouveaux habitants aussi dans les quartiers. Donc on voit bien qu'on est vraiment passé par toutes ces étapes. Aujourd'hui, donc, au-delà de l'amélioration du cadre de vie résidentiel, et donc les résides que j'évoquais tout à l'heure ont vraiment été les premières opérations qui ont fortement modifié la façon dont les habitants aussi occupaient leur espace, puisque au lieu de se cantonner au logement, voilà, il y avait toute la question des externalités, de comment on allait occuper les parties communes, mais toutes les interfaces en fait, avec les espaces publics qui n'avaient pas forcément été pensées et pas investies en tout cas, et pas entretenues non plus, et qui aujourd'hui sont quelque chose qui est totalement intégré dans les programmes.
Anne, vous vouliez dire autre chose peut-être ?
Oui, alors peut-être.
On vous entend très bien, il n'y a pas de souci.
Oui, par rapport à l'attractivité, alors aujourd'hui, je dirais qu'on est encore dans des enjeux encore plus ambitieux qui sont aussi d'arriver finalement à répondre à des enjeux de diversification, y compris en termes d'occupation sociale. Donc, ça, c'est un peu. C'est quelque chose voilà, qui était certainement souhaité, mais peut-être la qualité effectivement des réhabilitations n'amenait pas forcément à ce que cet enjeu devienne vraiment maintenant opératoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on intervient de façon massive en termes de restructuration typologique, d'adaptation du patrimoine, en termes d'accessibilité, en amélioration des qualités d'usage en fait des logements, la question aussi de la possibilité de rendre, du fait de l'attractivité de ce patrimoine, de pouvoir le rendre accessible à des ménages différents, se pose de plus en plus.
Ok, quelques mots quand même sur un dispositif dont on entend souvent parler, c'est le dispositif Seconde Vie. C'est quoi clairement les caractéristiques clés et quels sont les objectifs visés et surtout les bénéfices qui sont envisagés?
Alors le dispositif Seconde Vie, donc c'est un dispositif qui ne se situe pas que dans l'ANRU, que dans les programmes ANRU. Par contre, on est très satisfait de voir qu'on peut cumuler, en fait, aujourd'hui, on espère pouvoir cumuler ces deux dispositifs. Aujourd'hui, le décret n'est pas encore paru. Avec peut-être le petit bémol que le dispositif Seconde Vie vise en priorité de remettre le patrimoine dans des étiquettes énergétiques A, B et C. Et que parfois dans les QPV, la part de patrimoine en D est quand même très importante. Et la part de patrimoine en E et F, il en reste, mais à faible quantité par rapport à des secteurs hors QPV. Ça, on a vraiment une vision aujourd'hui quand même des passoires énergétiques territoriales qui est quand même assez fiable là-dessus. Le dispositif, c'est surtout une logique de financement aussi, qui est un peu différente, et qui vient répondre justement à tous ces enjeux aussi de diversification, d'occupation sociale, puisque grâce à ce dispositif, il y a des leviers qui sont actionnés, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, et qui aussi répondent à la question, on intervient pour remettre les bâtiments donc, dans un nouveau cycle de vie, et donc un nouveau cycle de vie au-delà de 50 ans. Donc finalement, on se rapprocherait de financements qui s'apparenteraient à des financements de neuf. Donc on va jouer sur la fiscalité, donc il y a une exonération de TFPB, et aussi il y a un allongement des prêts, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est enfin une possibilité finalement d'étaler pour les organismes, en termes de contraintes financières, la charge financière de ces opérations dont le coût a beaucoup augmenté. Et donc on étale la dette et on réduit la charge finalement pour les organismes. Et en plus, on peut aussi, et ça c'était, il y a des discussions toujours en cours, mais côté USH, on défend fortement ce sujet, de pouvoir faire évoluer les loyers à la relocation, hein, donc pas pour les ménages qui sont en place, mais bien à la relocation, dans l'idée là aussi de pouvoir accueillir des ménages plus diversifiés sur le parc existant.
Ouais, donc les bénéfices sont effectivement multiples. Dans quelle mesure l'USH maintenant contribue-t-elle finalement à la réflexion sur le futur de la politique publique de renouvellement urbain?
Alors cette année, donc effectivement, il y a eu les 20 ans de la rénovation urbaine, du renouvellement urbain. L'USH en tant que partenaire donc a mobilisé un groupe de bailleurs, a tenu des séminaires et a mobilisé aussi des commissions internes à l'USH pour établir la contribution donc à cette mission sur la poursuite du renouvellement urbain au-delà de 2026. La question de l'AREA effectivement était très présente. Dans la contribution, il y a eu à la fois le bilan de ce qui a été fait, l'examen des conditions de réussite et puis quelques pistes pour quel allait être le renouvellement urbain au-delà de 2026. Et c'est vrai qu'effectivement, la requalification... Alors, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a examiné de façon un peu quantitative et qualitative quels sites potentiellement pouvaient encore être, du point de vue des bailleurs en tout cas, avaient besoin d'un dispositif tel que l'ANRU. Ce qui apparaît, c'est que la question des réhabilitations, elle revient vraiment en premier plan. Donc, on entend aujourd'hui par réhabilitation, ce que disait Anaïs au départ, on est au-delà effectivement d'une remise en état des bâtiments. On coche vraiment les cases d'un enjeu de remise sur le circuit du patrimoine ancien. À l'issue de cette contribution, on peut dire que les bailleurs et donc l'USH soutient fortement, c'est cette question de la requalification, parce que dès à présent, elle est une des conditions de réussite du NPNRU en cours. On a déjà vu dans le cadre du NPNRU une grosse évolution de ces opérations, et donc il faut arriver vraiment à maintenir cette qualité et à faire en sorte qu'on puisse la financer. Et donc on appelle au renforcement des politiques nationales et locales, au soutien de la rénovation du parc existant, hein, que ce soit, et donc le cumul effectivement du dispositif mettons seconde vie avec l'ANRU. Ensuite, c'est aussi donc pour nous, c'est une façon surtout d'élargir la façon dont on peut intervenir sur le patrimoine existant, afin effectivement de permettre de remettre ce patrimoine dans un nouveau cycle de vie, et en offrant au maximum des prestations qui seraient à l'équivalent du neuf, et enrichir ainsi ce patrimoine existant de qualité d'usage nouvelle. Tel qu'aujourd'hui, on va rajouter des balcons, on va faire des extensions de logements. Les deux exemples qui sont ici présents vont largement expliquer, illustrer tous ces propos. Mais voilà, c'est aujourd'hui, effectivement, on pousse à ce que ces requalifications ambitieuses, voire urbanisantes, arrivent, puisqu'elles vraiment s'inscrivent dans un processus de transformation urbaine, puissent se prolonger dans les meilleures conditions.
Évidemment. Isabelle Buron, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice adjointe Habitat et Rénovation Urbaine de l'agglomération de Pau. Quelle stratégie l'agglomération de Pau met-elle justement en place pour répondre à ses besoins en matière de logement ?
Bonjour, très bien. Alors peut-être juste avant de répondre à cette question précise, vous présenter rapidement l'agglomération de Pau. C'est 31 communes, 165 000 habitants. Pau constitue la ville-centre, pèse pour la moitié dans cette démographie. On est aujourd'hui sur une stabilité démographique après une période de relative décroissance. Et on a l'habitude de dire qu'on est sur un marché détendu en matière de logement. Alors, moi, j'ai envie de corriger ça de suite. On n'est pas dans un marché détendu. Effectivement, les ménages chez nous n'ont pas les mêmes difficultés d'accès au logement que dans les métropoles. Pour autant, on est tendu sur le secteur, sur le segment de l'offre dit abordable. Aujourd'hui, quelques chiffres qui, à mon avis, parlent d'eux-mêmes. On a une attribution pour 6 demandes en 2024, alors même qu'on était à une attribution pour 3 demandes en 2018. Donc la tension est forte sur le parc locatif social. On a un parc locatif de 13 000 logements, 4 bailleurs présents sur le territoire, 2 QPV, 1 NPNRU, ce qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui, et un Action Cœur de Ville. Alors par rapport à la question que vous m'avez posée, la stratégie de l'agglomération, donc, Comme vous le savez, donc les agglomérations disposent de programmes locaux de l'habitat. On en est à notre quatrième, enfin on élabore notre quatrième programme local de l'habitat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a opéré un virage depuis 2018, alors même qu'on centrait notre stratégie sur l'offre nouvelle essentiellement en 2005. Là, on a opéré un virage, on se concentre aussi, on a une vraie politique en faveur de la réhabilitation et de la restructuration du parc existant, que ce soit le parc privé ou le parc social. Et puisque ici, on est censé parler plus spécifiquement de parc social, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, on a posé cette stratégie en faveur du parc social existant et qui a été largement nourrie par les réflexions que l'on a menées dans le cadre du NPNRU, à savoir voilà, l'enjeu de conjuguer deux défis. Le premier lié à la limitation de l'empreinte carbone du bâtiment et donc du logement, donc avec ses enjeux de réhabilitation énergétique. Et le deuxième, et ça on y tient, cet enjeu de travailler la qualité d'usage, l'attractivité, l'image, et qui sont un préalable indispensable à l'élaboration d'une politique de mixité sociale également dans le parc social.
Et comment est-ce que vous collaborez, travaillez avec le bailleur pour intégrer justement les projets de réhabilitation dans le projet urbain ?
Alors, donc le projet Saragosse, en quelques mots, c'est 158 hectares aux portes du centre-ville, un projet avec une vraie mixité fonctionnelle qui préexistait, une mixité de l'habitat. On a seulement un tiers du parc, un tiers des logements qui sont dans le parc social, le reste ce sont des copropriétés privées, donc c'est un peu la spécificité du quartier. On a l'ambition de rénover 14 résidences, 1500 logements, on a un bailleur unique. Et c'est vrai que ce projet urbain, il a été déterminé très en amont avec un plan guide qui a pris vraiment soin de rendre compte des usages et qui a vraiment été élaboré en tenant compte des usages de ce quartier. Oui. Aujourd'hui, on considère que les réhabilitations structurantes et, les résidentialisations des résidences sont des pièces constitutives de ce projet urbain. Et notamment et surtout par le travail d'interface qui a été vraiment soigné, d'interface avec l'espace public. Alors concrètement, on a fait le choix d'une AMO unique qui a dessiné ce plan guide, mais qui a également travaillé des principes directeurs en termes de résidentialisation. Alors, je peux vous en citer quelques-uns.
AMO, c'est ?
Alors, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est une expertise tierce qui vient nous accompagner, en fait, tout le long du projet urbain et qui est unique. Donc, qui a travaillé sur le projet global et sur ses résidentialisations, qui nous a aidé à poser des principes comme, par exemple, le fait de retrouver une façade pour chacune des résidences avec un adressage clair sur l'espace public, éloigner la voiture du pied d'immeuble, végétaliser le pied d'immeuble pour faire en sorte qu'on ait vraiment une mise à distance un peu douce des flux de piétons. Et la spécificité de Pau, c'est vraiment qu'on a démarré ce projet urbain par une réalisation de suite des espaces publics, des équipements. En fait, on a travaillé tout le projet urbain pour insuffler cette dynamique de changement. Et le travail du bailleur vient dans un second temps. C'est-à-dire qu'une fois que tout le projet urbain a été, toute la dynamique s'est opérée, toute la transformation urbaine un peu lourde, toute l'ossature a été travaillée, les bailleurs interviennent avec les projets de réhab et de résidentialisation.
Alors, ce quartier Saragosse, il a une particularité aussi, c'est que 30% de la population a plus de 60 ans. Donc ça aussi, évidemment, c'est une donnée qu'il faut prendre en considération. Amélioration du cadre de vie, des parcs, circulation douce, logement modernisé. Est-ce qu'on peut parler justement des spécificités de ce projet de réhabilitation en prenant conscience effectivement de ce constat, de que la population, dans 30% des cas, a plus de 60 ans ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le projet de Saragosse, il a deux ADN. Le premier, c'est l'éco-quartier, mais je ne vais pas m'apesantir, vous savez après de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on est au stade 3 de la labellisation éco-quartier. Et le deuxième ADN, c'est l'adaptation au vieillissement. Donc l'idée, c'est de se dire, on veut créer un quartier où il fait bon vieillir, un quartier inclusif. Mais attention, l'idée, c'est pas de confiner les personnes âgées à domicile, c'est de faire en sorte de bien vieillir chez soi, mais surtout bien vieillir dans son quartier. C'est vraiment le fil rouge, le fil directeur de tout ça. Effectivement, comme vous le disiez, un quartier qui vieillit avec finalement une population relativement captive de ce quartier. Donc il fallait avant tout traiter ce quartier pour ses populations. Et pour revenir sur mon idée générale, on s'est doté d'une AMO qui nous a fait prendre conscience qu'on devait créer un quartier qui invitait à la mobilité en travaillant sur l'ensemble de la chaîne de déplacement, du logement à l'espace public. Travailler sur l'ensemble des continuités et donc adapter le logement, bien sûr, les pièces humides, les seuils pour que les personnes âgées se sentent bien dans leur logement, mais adapter les paliers, les cages d'escalier, les halls d'entrée, les pieds d'immeuble, l'espace public. Voilà, tout a été pensé sur l'ensemble de la chaîne de déplacement.
Et on en profite, en attendant, je fais un petit aparté pour saluer Madame la ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine, Valérie Létard, qui est également sur le stand du ministère du Logement. Ok, donc on s'est intéressé effectivement à ce quartier. Pourquoi finalement aussi avoir fait le choix de la réhabilitation plutôt que celui de la démolition ? Ça pouvait être aussi un choix ?
Tout à fait. Alors, plusieurs raisons. La raison numéro un, c'est que quand ce quartier a été pensé dans les années 60, il a été pensé de manière très qualitative avec un plan masse qui privilégiait déjà la mixité fonctionnelle et résidentielle avec des espaces publics très généreux. Et finalement, le projet urbain que l'on a dessiné à partir de ce plan masse préexistant, finalement, il tenait la route sans qu'on ait besoin de démolir finalement une résidence. Donc on a fait le choix de démolir une seule résidence pour faire finalement, pour déployer un parc au-delà d'une artère centrale, mais finalement ça suffisait. Les autres raisons, tout bêtement, c'est que la qualité du parc existant était bonne, malgré cette architecture qui est un peu datée. Et quelque part, il y avait un attachement des habitants à la fois au quartier, mais aussi à ce patrimoine. Alors ça va peut-être paraître anecdotique, mais on est sur des bars et des tours qui font 14 étages. Et depuis les étages supérieurs, on voit les Pyrénées. Et mine de rien, les gens ont trouvé ça dommage de démolir du patrimoine avec ces vues très qualitatives sur la ville et les Pyrénées.
Très rapidement, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans cette réhabilitation ou pas ?
Alors, juste dire, la difficulté, c'est d'opérer une transformation urbaine dans un quartier habité et sur des logements occupés. Je pense que c'est ça la plus grande difficulté. Et la difficulté à venir, c'est peut-être d'aller au bout de la transformation avec les réhabrésides, avec le même niveau d'ambition que l'on a posé sur les premières qui ont été livrées. D'ailleurs, je salue le bailleur Pobéan Habitat qui a réussi à livrer 5 résidences. Il en reste encore 9. Et tout ce qu'on espère, c'est qu'on arrive au même niveau d'ambition que ce qu'on a fait dès le départ.
Et dernière petite question, parce qu'elle est importante, et je dirais même, c'est peut-être même la plus importante de toutes. C'est quoi le retour des habitants que vous avez eu sur place ?
Alors, moi j'ai envie de dire, c'est pas la peine de faire des enquêtes, même si on en fait, je vais vous en parler, mais il suffit de se promener dans ce quartier pour voir que finalement il est vivant, investi, et finalement, à la fois par ses habitants, mais pas que, c'est ça qui est le plus intéressant, il y a une vraie mixité d'usage, mixité des gens sur ce quartier, il vit. Si vous voulez que je vous dise les résultats du dernier sondage, 85% des habitants ont considéré que ce projet a changé leur vie. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a dépassé l'effet « waouh ». Ça y est, le projet est crédibilisé vis-à-vis des habitants, quand on a livré le parc, etc. Maintenant, il y a vraiment une attente très claire des habitants pour parfaire un petit peu ce projet et aller jusqu'au bout en allant travailler les logements, les résidentialisations. C'est vraiment le travail qui reste à mener.
Bon, 85%, c'est quand même un chiffre qui parle. Donc c'est bien, c'est un joli retour sur investissement aussi, quelque part.
Exactement.
Merci. Allez, je m'adresse maintenant à Nicolas Découvelard. Je rappelle que vous êtes directeur du patrimoine et du développement Archipel Habitat, l'office public de l'habitat de Rennes Métropole. Archipel Habitat alors, est responsable de la gestion de près de 17 000 logements sociaux, logeant un peu plus de 30 000 personnes. Et vous êtes également impliqué dans la construction et la réhabilitation de logements HLM. Voilà, une fois qu'on a dit ça, comment Archipel Habitat a-t-il réussi finalement à se positionner comme territoire précurseur en matière de réhabilitation de logements sociaux ? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit.
Oui, alors Archipel Habitat est un organisme de logement social. Le territoire de la métropole de Rennes est sans doute précurseur en matière de réhabilitation. En tout cas pour nous, et comme l'a dit Anne tout à l'heure, les bailleurs, on a quand même une culture ancienne de la réhabilitation. Parce qu'on est aussi très attaché à notre patrimoine, évidemment aussi attaché à nos locataires. Pour Archipel Habitat, on a aussi une culture de la proximité avec des agences vraiment dans les quartiers, avec des collègues gardiens d'immeubles qui sont très présents auprès de nos locataires. Donc on a cette attention quotidienne à notre patrimoine et à nos locataires. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, donc voilà, pour nous, il y a aussi cette habitude et pour mener ces réhabilitations, d'engager très tôt les échanges avec les habitants, y compris pour les réinterroger sur ce qu'ils attendent de ces programmes qui ne sont pas que des programmes de travaux. On rentrera peut-être dans les détails par la suite.
Alors, en tenant compte des diversités des patrimoines, les arbitrages que vous prenez, ils prennent en compte comment les choix de projets de réhabilitation ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre telle ou telle décision ?
Alors, comme la plupart des bailleurs, on a en réalité des feuilles de route qui sont structurées. On prévoit nos investissements sur 10 ans au travers de ce qu'on appelle les PSP, les plans stratégiques de patrimoine. Avec une vision qui s'actualise. En ce moment, on met à jour nos documents, notamment pour y intégrer toute une dimension environnementale qui était moins présente dans ces précédents documents, qui sont des documents cadres importants. Donc on a ce travail d'analyse, qui est une analyse d'abord sur la qualité et sur les besoins du patrimoine qui vieillit, comme nous, avec les questions de la lutte contre l'obsolescence. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été dit aussi, travailler davantage sur la question de l'adaptabilité des logements à des locataires qui vieillissent, donc qui ont besoin aussi de soins particuliers pour qu'ils puissent rester dans ces logements. On intègre aussi beaucoup plus la dimension environnementale, réduction de notre impact carbone. Donc ça aussi, c'est un apprentissage qu'on porte. Ça fait partie évidemment des arbitrages quand on sort les étiquettes. Avant, on regardait vraiment quasiment exclusivement la dimension énergétique. Aujourd'hui, on intègre la dimension environnementale. Et puis, à partir du moment où on fait le choix de conserver ces logements, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu historiquement un arbitrage entre la démolition et la réhabilitation, là, on doit se poser la question de quelles sont les conditions pour les projeter pour à nouveau un cycle qui pourrait durer 50, 60 ans.
Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Ça ne m'empêche pas de vous poser encore deux petites questions qui sont importantes. Tout à l'heure, on était à Pau, donc sur le quartier Saragosse. Maintenant, on va s'intéresser à celui de Rennes-Morpa, devenu laboratoire d'expérimentation, carrément. C'est quoi les principales innovations mises en œuvre dans ce projet de transformation ?
Alors, une des nouveautés est plutôt une nouveauté comptable. Nous, on n'avait jamais fait de réhabilitation à plus de 100 000 euros par logement. Donc, c'est vrai que là, ça secoue, y compris les éléments d'équilibre de l'organisme. Donc, la question des financements était aussi un premier sujet. Alors, on a été accompagné évidemment par l'ANRU, par les collectivités pour boucler ces premiers plans de financement. Dans les sujets nouveaux, c'est notre organisation RH autour de ces projets avec un mode équipe projet, en fait, où chaque direction, maîtrise d'ouvrage, gestion locative, proximité, vient apporter ses ressources pour constituer une équipe qui fonctionne avec avec une certaine autonomie. Et ça crée une dynamique aussi RH très intéressante dans nos organismes. Une innovation, une singularité, c'était ce qui a été dit aussi tout à l'heure, on a mis en place nos premiers BRS, qui a impliqué que nous-mêmes, on soit agréés en tant qu'OFS, organisme de foncier solidaire, pour permettre la vente de logements. Donc ça, c'était... On avait des grandes préventions par rapport à la vente du parc social. Le BRS qui sacralise en quelque sorte la dimension sociale de cette accession, voilà, nous permet de proposer des logements à la vente, ce qui implique aussi pour nous de prendre la responsabilité de syndic de la future copropriété qu'on crée dans ces tours. Donc voilà, quelques innovations qui ont vraiment fait bouger les lignes pour Archipel Habitat.
Alors j'imagine forcément que vous avez dû consulter les habitants, les premiers concernés. Comment est-ce que vous êtes adapté justement à leurs demandes qui peuvent être parfois vraiment spécifiques ?
Alors la demande pour les habitants, c'est de trouver un confort de vie. Enfin, ces logements ont beaucoup de qualité, ils sont très bien exposés. Comme on l'a dit, il y a souvent des vues, parce qu'on est dans des tours, donc des vues incroyables sur la ville de Rennes. Un des gros défauts, c'est l'acoustique. Et c'est vrai que pour nos habitants, le premier sujet, c'était de pouvoir vivre chez soi, c'est-à-dire sans entendre le voisin du dessus en permanence. Donc pour nous, et c'est assez rare dans les réhabilitations, on a engagé un gros travail de, d'amélioration acoustique de nos logements. Donc voilà, quelque chose de très concret, mais qui change du tout au tout le quotidien de nos logements si on arrive à le traiter, ce qu'on a réussi à faire.
Alors c'est un projet aussi qui a favorisé la mixité sociale. Et quelques mots également sur l'expérimentation du loyer unique. Ça aussi, c'est un élément clé hein, de ce projet et qui est différenciant aussi par rapport à d'autres.
Oui. Alors le loyer unique, c'est un dispositif, une politique de loyer sur l'ensemble de la métropole qui vise entre autres à combattre le phénomène qu'on avait constaté cette dernière décennie sur nos quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire qu'on concentrait là où les loyers de la métropole étaient les moins chers, les plus grandes fragilités. Et on a voulu, et les élus de la collectivité avec les bailleurs, on se sont engagés dans un processus où on rééquilibre complètement la politique de loyer et on propose au même niveau de loyer un logement dans les résidences les plus récentes, dans éventuellement les communes les plus résidentielles de la métropole, au même tarif que ces loyers en quartier politique de la ville. Ce qui nous oblige aussi à mettre à niveau nos logements dans ces quartiers pour trouvent leur public, je dirais. Mais voilà, c'est un élément vraiment déterminant. Et c'est ça aussi, hein, la réhabilitation, c'est aussi, si on veut qu'elle réussisse, doit s'accompagner aussi d'une réflexion globale sur la politique des loyers, la politique d'attribution, pour atteindre cet objectif de diversification.
Évidemment, toute dernière question, Nicolas. J'imagine que vous voyez venir le retour des habitants sur place.
Alors, le retour des habitants, on le mesure aussi. Alors, évidemment, un plus grand confort, hein, le sujet du confort acoustique. La réduction des charges, parce que nos locataires, ils sont particulièrement sensibles. Donc, on a aussi eu ce travail sur la performance de nos logements. Avec toujours le fait, et Anne le disait aussi tout à l'heure, voilà, notre intervention sur le bâti, elle est intensive, elle implique énormément de choses pour nous. On a encore aussi à traiter, là on sort un peu de nos bâtiments, mais la question de la sécurité dans les quartiers, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui ne trouvera son plein sens que si on traite aussi, ou en tout cas, pour nos habitants, on accompagne ce problème de sécurité dans nos quartiers.
Et chez vous aussi, il y a 85% d'habitants satisfaits.
Alors, on n'a pas fait de mesure de cette. Mais on est régulièrement dans nos résidences et on voit bien l'appréciation de ce travail qui a été fait. Et c'est vrai que pour les équipes, c'est finalement pour ça aussi qu'ils avancent.
14h40 sur Radio Territoria. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'être venus sur ce plateau. Grand merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement. Nous sommes toujours ici en direct à Montpellier sur la 84e édition du Salon HLM, du Congrès HLM. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci.
Vivez le 84e Congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.